Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes jeudi 1er mars et il fait 14 degrés. Ah non, il fait moins 4 degrés, pardon. Ouais, bah, comme partout, ça caille un petit peu. En voiture pour pas changer, quelques rafales de vent pour donner un peu de piquant à la conduite. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses différentes, comme d'habitude. La première chose, ben, c'est par rapport à cette fameuse conduite. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dernièrement, quelqu'un s'est amusé aux États-Unis, me semble, à comparer Waze, Apple Plan et Google Maps en termes de guidage automobile. Donc, il s'est, si je ne dis pas de bêtises, il a testé ça pendant un an sur à peu près 120 trajets. Alors, je ne sais pas comment il a fait, je crois qu'il a lancé les trois en même temps. Et pour voir et pour se rendre compte qu'au final, Waze n'était pas si en avance que ça par rapport à ses deux autres concurrents ou cousins, puisque Waze fait partie de dorénavant de Google et Google Plan, donc je pense qu'il y a des données qui sont communes. Mais que, alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est Waze, était un peu trop optimiste sur les temps d'arrivée, alors qu'Apple Plan par exemple était un peu plus réaliste, voire un peu pessimiste, ce qui fait qu'on arrivait toujours à l'heure, voire un peu en avance par rapport à ce qui était prévu au départ. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, il y a quelques commentaires qui disaient, enfin j'ai lu à droite à gauche, qu'Apple Plan avait quand même bien évolué. Et donc je me suis amusé là, sur une petite semaine, à remplacer mon Waze par Apple Plan. Donc je fais un petit retour là-dessus, enfin un petit retour, il n'y a rien à raconter de particulier. J'ai redécouvert en fait Apple Plan. L'avantage d'Apple Plan, c'est que alors, j'utilisais Apple Plan avec Coyote, l'application pour les, pas dire pour les radars, mais pour les zones d'alerte, les dangers sur la route. Donc je mettais Apple Plan, j'ouvrais Coyote et Coyote était en application principale et Apple Plan en tâche de fond. Et en fait, Apple Plan, l'avantage, c'est qu'il va vous donner les indications, tourner à droite, prendre la prochaine sortie. Ça va apparaître en surimpression, en une sorte de grosse notification sur le téléphone. Et puis, il y a la dictée vocale qui va vous dire quand tourner, quoi faire avec votre voiture. Donc, jusque-là, rien de transcendant. Sachant qu'en plus, moi, j'ai désactivé sur Waze toute la partie vocale parce que ça me gonfle. Et puis, c'était pas très, à l'époque, c'était pas très précis. Tandis que là, Apple Plan, c'est quand même vachement précis. Un, ça anticipe vachement les intersections, ronds-points, sorties, enfin les... C'est plutôt propre et ça vous donne même les voies, positionnement de votre voiture sur les voies. Je m'explique, lorsque vous êtes sur, je roule pas mal sur la région parisienne, quand vous êtes sur des autoroutes autour de la région parisienne avec des axes qui se croisent, décroisent et qui se recroisent, il va vous dire restez sur les deux voies de gauche, positionnez-vous sur les deux voies de droite parce qu'après il y aura une, faudra prendre la deuxième sortie, enfin, etc., etc. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout en termes de guidage. Donc la fonctionnalité guidage automobile est plutôt au rendez-vous puisque ça sert vraiment à vous guider et à bien positionner votre voiture. J'ai pas eu de problème, j'ai pas décelé, du moins sur la petite semaine que j'ai utilisé, de bug de guidage. L'avantage aussi, c'est que ça s'interface nativement avec les autres applications Apple, notamment, je vais peut-être en choquer certains, le positionnement de ses amis. Puisque j'ai mes filles qui sont équipées en iPhone et donc dans la famille on se positionne tous, on se géolocalise tous, ça faisait partie du deal au départ. Et puis je devais aller chercher ma fille qui était partie se balader en ville, plutôt de l'appeler pour dire où tu te trouves où, j'ai fait géolocaliser, Apple Plan se rend là-bas et hop ça m'a dicté, ça m'a conduit directement là où elle se trouvait. Donc ça c'est plutôt pratique. Par contre, toute la partie que j'utilise sur Waze, notification de danger sur la route, objet sur la route, voiture arrêtée sur le bas-côté, etc., etc., n'y est pas. Sur Coyote, donc, qui vient en fait en application principale, donc il y a la partie bien évidemment radar fixe et ou radar mobile, mais par contre, j'ai pas eu de notification d'objets sur la route ou de choses comme ça. Je sais pas si je l'ai activé ou désactivé, mais c'est moins, quand même moins ergonomique. Après, c'est les goûts et les couleurs, que Waze. Donc, après cette petite semaine, je suis comme repassé sur Waze pour trois raisons. Petit 1, mon abonnement Coyote va bientôt se terminer et je pense que je vais pas le renouveler puisque Waze fait bien le job. Sur Waze, on a quand même pas mal d'informations de danger sur la route. Je parle bien de danger, je ne parle pas de radar, hein, de danger sur la route. Et je pense notamment un coup à... Il y a de ça quelques mois, 2-3 mois, j'étais sur l'autoroute pour changer. J'étais sur la voie de gauche. Il y avait une voiture devant moi qui roulait assez vite. Et à un moment donné, j'ai eu notification de « attention, voiture arrêtée sur la route ». Et à ce moment-là, la voiture devant moi a fait un écart. En fait, il y avait une voiture qui était arrêtée sur la voie de gauche, donc sur l'autoroute, sur la voie de gauche. Et la voiture qui était devant moi a fait un écart 100 mètres de clignotant sans prévenir, en fait, 100 mètres de warning. Et si j'avais pas eu cette notification-là, je me dis que la notification m'a mis en alerte. Je dis, tiens, il faut que je fasse gaffe. Et avec la voiture, l'écart, ça m'a permis de compléter mon niveau d'attention. Je dis pas que je me serais tapé la voiture, mais au moins, j'ai été moins surpris. Donc ça, par contre, si je garde la fonction comme j'avais fait la semaine dernière, donc d'avoir plan et Coyote par-dessus, je n'aurai pas ce genre d'information. Et la deuxième chose qui m'a manqué par contre énormément, c'est que sur Waze, vous pouvez prévoir vos trajets en disant voilà, demain matin, je dois être à telle heure, à tel endroit. Et il va vous prévenir, il va dire bah voilà, il faudra partir à peu près vers telle heure. Donc déjà, vous savez, quand vous levez, vous pouvez vous organiser en préparer votre matinée. Et surtout, 10 minutes avant, il va vous faire un petit rappel. Attention, en 10 minutes, il faut qu'il parte. Donc, cette fonction-là, malgré tout, est très, très pratique. Et elle n'est pas sur Apple Plan. J'ai cherché un petit peu, je ne l'ai pas trouvé. Donc, non pas qu'Apple Plan ne soit pas bien. Alors, je n'ai pas testé Google Maps, vous allez me dire, oui. Mais c'était vraiment par rapport à Waze et toutes ces petites options qui vont bien. Après, Waze, il y a aussi ses défauts, qui sont, par exemple, toutes les affiches, enfin, les fausses alertes, parce qu'il y en a une chier plus 10. Il y a aussi la partie pub. Parce qu'on s'arrête des trucs d'affichage au feu rouge, mais bon, il n'y a qu'à pas regarder l'écran tout simplement. Et puis voilà. Ah si, dernière chose aussi, enfin deux choses encore, sur cette partie Apple Plan. Donc Apple Plan, donc j'avais la dictée vocale qui fait que lorsque j'écoutais les podcasts, c'était régulièrement coupé sur l'autoradio dans 300 mètres, prenez la troisième sortie, etc., etc. Donc c'était un peu moins... Du moins, les podcasts sont plus longs à écouter de ce fait-là. Et puis, la partie… alors que sur Waze, comme j'ai désactivé la dictée vocale, je n'ai en fait les coupures de podcast que pour la partie alerte particulière. Et puis, la deuxième chose, c'est au niveau des cartes. Donc, l'Apple Plan est quand même beaucoup moins à jour que peut l'être Waze. Par exemple, pas loin de mon boulot du siège où je travaille, il y a des travaux qui sont faits… qui sont régulièrement faits au niveau des rues autour avec des constructions. Et donc, il y a une rue qui était avant, qui n'existait pas, qui a été créée. Et ça, maintenant, je dirais, ça fait bien un an et demi. Ouais, une bonne année et demie que cette route existe. Bien, sur Apple Plan, elle n'était toujours pas créée. Donc, quand je suis passé par là, Apple Plan était un peu perdu. Il me disait, reprenez la route. Donc, voilà, c'est un peu les deux. Mais mon comparatif à moi, je pense qu'Apple Plan, je le garderai, enfin je me dis que je pourrais le réutiliser pour des endroits un peu touchy que sont des zones avec le positionnement de la voiture. Si j'ai besoin. Après sur la partie guidage auto, arriver à telle heure au bon endroit, de toute façon sur la région parisienne, une fois que c'est bouché. Il y a Apple Plan qui m'a fait passer par une autre route hier. Que Waze m'avait jamais fait emprunter, mais je suis arrivé à peu près à la même heure. Après, si c'est pour gagner 3-4 minutes, c'est pas tellement. Ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas le but ultime. C'est bien si on peut toujours gagner 3-4 minutes, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Bon, voilà pour le premier truc. Deuxième truc, on est le 1er mars. Et 1er mars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change au 1er mars? Alors, je vais être beaucoup plus tech. Les Bouygues Box 4G, la box 4G donc de Bouygues, Bouygues Box 4G, les box 4G de Bouygues, arrêtent son offre illimitée. Je m'explique, jusqu'à maintenant, lorsque vous preniez une box 4G de chez Bouygues, donc l'idée c'est d'avoir l'internet qui arrive par la 4G chez vous, qui après vous diffusez par Wi-Fi ou par câble Ethernet, enfin vous faites ce que vous voulez derrière, il y a un routeur. Et cette offre était donc illimitée. Présenté comme illimité. Et puis dans les forums ou dans les discussions sur Twitter, pas mal de gens se plaignaient de restrictions de débit au bout d'un certain quota de données qui était en fait 200 gigas. Donc moi, pour ma part, j'ai jamais eu cette restriction, puisqu'en fait, cette restriction, c'est on tombe directement à 512 kilo-octets en termes de débit. Donc 512 kilo-octets, c'est le lancement de la DSL il y a 15 ans, 20 ans. Donc c'est vraiment très très faible. En gros, aujourd'hui dans nos usages, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et donc à partir du 1er mars, Bouygues officialise ce quota de 200 gigas pour ses box 4G. Donc l'illimité est terminé. Alors 200 gigas, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Dans un usage familial ou du moins à domicile, est-ce que c'est suffisant? Alors, si vous me suivez depuis très longtemps, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé il y a une petite année déjà de ma réflexion de trouver de la 4G pour mettre à la maison et je voulais savoir combien j'utilisais en termes de données. Et là, en fait, avec cette box 4G que j'ai depuis maintenant 6-7 mois, bon, on a cette information. Donc, je suis monsieur, ça faisait un moment que je ne m'étais pas connecté sur la console de cette box. Je me suis connecté, j'ai regardé combien je consommais. Et je consomme en moyenne 1,4 ou 1,5 téra par mois. Donc, mes 200 gigas, ils vont vite être bouffés. Je ne suis pas. C'est une consommation, on va dire, normale, c'est-à-dire que j'ai pas des téléchargements de films 4K ou de documentaires 4K, pardon, Lego, assez poussés. J'ai une utilisation qui va être classique du Netflix aujourd'hui, du YouTube. Il y a l'histoire de mon NAS Synology avec les sauvegardes toutes les nuits. Il y a mon... Ah tiens, en fait, Drive... Bon, je vous en parle un autre coup. Aussi, je le ferai après. Il y a mon donc, NAS Synology. Il y a après l'utilisation normale en fait de ce qu'on peut faire dans une maison. Et donc, je suis largement au-dessus des 200 gigas. Donc, je vais avoir un vrai problème. D'autant plus que la réflexion aussi... le constat qu'on fait, pas la réflexion, le constat, c'est que plus vous avez de débit, plus vous allez consommer. Clairement, je prends un exemple sur YouTube. YouTube se met par défaut aujourd'hui en qualité HD, alors qu'avant il adaptait son flux au faible débit que je pouvais avoir. Donc plus vous avez de débit, plus vous atteignez le quota de débit tout simplement. Donc gros problème en perspective par rapport à ça. J'ai fait une petite recherche sur internet et j'ai trouvé un truc qui permet en fait de passer outre. Qui permettrait, parce que comme je n'ai pas encore atteint le quota, on va bien voir ce que ça donne, de passer outre ces fameux 200 gigas. Le truc, c'est quoi? C'est en fait un petit logiciel qui vous permet d'accéder directement à la box. Alors, c'est un logiciel légal, hein, c'est pas du tout du piratage, qui vous permet d'accéder directement à la configuration de la box Huawei, parce que c'est Huawei qui vous fait la box 4G. Et dans cette configuration, en fait, vous pouvez sélectionner les différentes bandes de téléphonique sur laquelle la box va se connecter. Donc, par défaut, je crois que ça se met sur du 800 ou 2100 ou 1800, je ne sais pas d'ailleurs en fait. Enfin, c'est automatique. Et en fait, le fait de changer la bande, de tester une autre bande de fréquence, je vais y arriver, pour votre 4G ou votre 3G+, fait qu'apparemment, ça fait sauter cette histoire de quota. Donc, je vous tiendrai informé par rapport à ça une fois que j'aurai atteint mes fameux 200 gigas et qu'il m'aura baissé ses 512, il m'aura mis le débit à 512 kilo-octets. Chose que je pense qu'on va s'apercevoir très rapidement dans la maison. Donc voilà, ce logiciel s'appelle LTE Watch ou 4G Watch. Faites une petite recherche sur YouTube, bridage box 4G. Vous allez voir, il y a 2-3 tutos, pardon. Avec un ou deux logiciels différents d'ailleurs, mais ça reprend la même idée et c'est très très sympa. Il n'y a pas de bidouille, on se connecte juste avec le logiciel à sa box avec l'adresse IP, le mot de passe de la box et roule ma poule, on change les fréquences. Voilà pour cette petite partie. Juste dernière chose et après je vous laisse tranquille. Petit retour sur le NAS avec Drive, donc l'application qui vous permet de synchroniser les documents à la manière de Google Drive d'ailleurs, pour le NAS. J'ai enfin réussi, donc je remercie les retours que j'ai eus via Twitter de deux personnes qui m'ont envoyé un petit message pour m'expliquer, pour me donner deux trucs différents. Donc dans les deux cas, ça marchait. Et en fait, je suis un peu con. Oui, je suis un peu con des fois. C'est que lorsque j'avais fait ma configuration, j'étais passé via le répertoire favori de Windows Explorer. Donc vous avez un truc favori en haut à gauche qui se met en place. Et en fait, ce truc favori, ce sont que des raccourcis et non pas les dossiers originaux. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai copié en fait tout directement ce que j'ai fait. C'est que j'ai été à la racine donc du mon disque dur. J'ai été chercher là où se trouvaient les vraies données. J'ai fait un copier-coller de ces données dans le dossier de partage de Synology. Et là, ça a synchronisé automatiquement et sans problème. Donc ça fonctionne. Voilà, donc je suis content. Je suis content, comme ça je vais pouvoir passer de Google Drive. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes. Bon, il y a 15 minutes, c'est très bien. Donc je souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un très bon mois de mars, puisque le printemps va arriver d'ici la fin du mois. Les jours vont se rallonger. Les températures devraient s'adoucir normalement. En espérant qu'on puisse profiter un peu plus de belles journées dehors. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut !